France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Ils viennent de sortir un album orgue voix, ça s'appelle Orgasme. Ils y explorent le désir et la sensualité. Bonnie Banane et Joseph Sciano di Lombo seront mes invités à partir de 13h. Mais pour commencer, on se la joue critique. Aujourd'hui, on parle des sorties cinéma avec deux grosses sorties, justement F1 de Joseph Kosinski et Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi. Vous écoutez les Midis de Culture, soyez-en remerciés. Et ces critiques du jour, je vous les présente. Adrien Desnouettes, critique et enseignant.
Bonjour.
Bonjour. Sandra Onana, critique et journaliste à Libération.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, il y a eu Le Mans 66, Rush, Days of Thunder, Jour de Tonnerre, et évidemment la série des Cars des studios Disney. Le film de course de voiture est un genre en soi. Voici donc F1, réalisé par Joseph Kosinski, avec un vieux routier des circuits qui reprend le volant, Brad Pitt. Joseph Kosinski, c'est lui qui a réalisé Top Gun Maverick en 2022 avec le succès mondial que l'on connaît. F1 affiche un budget de 300 millions de dollars, plus que confortable pour assurer une mise en image ultra réaliste pour l'histoire. Rien de nouveau sous le soleil en fait. Une ancienne gloire des circuits tente de revenir dans la course et il affronte un jeune aux dents longues, un rookie comme on dit. On commence par quelques mots rapides, Sandra Onana.
Je trouve aucune bonne raison de vibrer devant ce film. C'est vraiment un exercice d'auto-promotion de Brad Pitt assez sidérant, déjà de premier degré dans le virilisme, dans les codes effectivement très clichés. Et voilà, si c'est juste les mots introductifs,
exactement.
Voilà.
On a tout compris. Adrien Desnouettes.
J'en sors déçu aussi parce qu'en fait le film a fait toute sa promo sur la promesse d'immersion. Et moi en fait, j'y allais pas du tout pour l'histoire, enfin j'avais bien compris que c'était des recettes vues et revues, mais j'attendais beaucoup de ce documentaire sur la vitesse, quelque chose de très extrême. Et en fait, ce film rêvé n'arrive jamais, il est complètement tenu en laisse par les conventions du blockbuster et il n'arrive pas à les semer, jamais.
Alors avant de poursuivre, on s'écoute une petite bande-annonce.
Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility.
Recru a un talent fou, mais il est jeune. Toi, plus lui, boum, j'ai une équipe.
Ta dernière victoire, c'était quand?
Dimanche, Daytona.
Oh, pardon, je voulais dire en Formule 1.
Ah, désolé, pareil que toi.
Un nouveau. Il est vieux, il est con, mais il roule vite.
Si vous deviez avoir une critique constructive l'un pour l'autre...
T'es vraiment un relou.
T'es vraiment un abruti. C'est constructif. Waouh.
Voilà, F1 de Joseph Kosinski. Alors, une critique constructive, Sandra Onana.
Pour être constructif sur un film qui l'est pas du tout, non, mais peut-être déjà faut commencer par le fait effectivement l'idée d'une immersion dans la Formule 1 vient de d'accès visiblement très privilégié qu'ils ont eu à cet univers. Il y a le champion Lewis Hamilton qui coproduit, et donc les événements qu'on voit grandeur nature, Abu Dhabi, Las Vegas, etc., visiblement on est vraiment au cœur effectivement des circuits de Formule 1, ce qui entache directement le film comme une sorte de placement de produit géant, ce qui serait effectivement pas rédhibitoire s'il avait quelque chose à dire. Alors, sur la vitesse, on en parlera peut-être, mais moi, je m'intéressais au thème de la loose, quelque part. C'est un vieux pilote qu'on sort de sa retraite pour faire gagner une écurie en faillite. Rien que cette idée des beautiful losers qu'on essaye de nous vendre dans le film, d'une équipe qui a pas la gagne, qui a un étalon très prometteur, ce jeune acteur qu'on connaît pas encore, qui s'appelle Damson Idris, Harris, mais qui doit trouver un peu comment se redresser et comment retrouver de la vitesse. En fait, ça marche pas, ce thème des losers magnifiques, dans un univers qui respire autant l'argent, l'aisance. Il y a quand même une sorte de faux doigt d'honneur adressé au business en permanence. Il y a un personnage de bureaucrate abruti, etc., sans qu'on comprenne ce qui devrait dissocier cette équipe de ces valeurs de vulgarité qui sont assumées à l'écran. Et puis voilà, et qui en plus mettent en jeu quelque chose d'un conflit de génération très cliché, d'une rivalité entre ces deux hommes qui doivent faire équipe, le vieux fauve blond qui est Brad Pitt et le jeune noir arrogant prometteur, et qui en fait aboutit à une morale de boomer, c'est-à-dire le vieux routier a des choses à apprendre aux jeunes bleus pour qu'ils apprennent un peu l'humilité, qu'ils lâchent un peu TikTok, les annonceurs, etc. Et voilà, il y a quelque chose dans le film qui donne pas du tout envie d'applaudir avec l'équipe, d'être de leur côté, parce que ça semble effectivement très ringard et pas même décalé dans ses valeurs gonflées à la virilité, à la gagne, etc.
Adrien Desnouettes, il y a même pas le plaisir justement de la vitesse qu'on pouvait rechercher.
Non, ben moi c'est là que je l'attendais en fait, parce que un peu contrairement à Sandra, enfin on est d'accord sur, on a le même ressenti sur le film, mais contrairement à Sandra, j'attendais absolument rien de son scénario, pour la simple et bonne raison qu'en fait son scénario il existe deux fois au minimum à titre de plagiat. Hein. C'est Driven de Randy Harlin au début des années 2000 avec Stallone dans le rôle de Brad Pitt, c'est exactement la même histoire, un rookie à former sur des courses de NASCAR à l'époque, c'est exactement la même histoire, et puis surtout Maverick, Top Gun Maverick, qui est en fait exactement le même scénario, avec Tom Cruise à la place de Brad Pitt et des avions de chasse et des dogfights à la place des races. Donc là-dessus, je n'avais absolument aucune espèce d'illusion. Je savais très bien à quoi ressemblait le scénario. Le truc, c'est qu'en fait, le film arrivait bardé de plein d'enjeux. Le premier, c'était de faire la publicité de la F1. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait la F1 c'est un genre de course qui est très peu cinégénique. C'est pas photogénique la F1. Contrairement à tout le NASCAR, à toutes les races de Le Mans, par exemple, vous savez les courses de Le Mans, tout ça qui ont été filmées par Steve McQueen, Le Mans 66 par exemple il y a quelques années de James Mangold. En fait, ces films-là redoublent les enjeux dramatiques des courses par un vrai plaisir à voir des belles voitures. Mmh. Il y a vraiment un plaisir très américain à vanter un peu la civilisation de la bagnole. Et les Américains savent très bien faire ça. La F1, pourquoi ça marche pas et pourquoi il y a jamais eu de grands films de F1? En fait, parce que déjà, il n'y a pas cette espèce d'érotisme des formes des voitures. La F1, c'est juste un châssis sur des roues et on ne peut parler que de vitesse. Donc en fait, et en plus, c'est pas dans la culture américaine. Donc il a fallu vendre un produit que les Américains n'allaient pas trop regarder et donc ils ont que la vitesse à vendre. Et donc moi, j'attends ce documentaire sur la vitesse. Et j'y croyais, pour être tout à fait honnête, pour vous dire à quel point je suis moins déçu du film que de moi, en fait. Je me suis dit, en voyant le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es naïf? Évidemment qu'ils allaient se faire bouffer.
Mais c'est beau pour un critique cinéma d'être naïf encore en avance.
Et pourquoi j'étais naïf? Parce que Brad Pitt. Et pourquoi? Pourquoi Brad Pitt? Parce qu'en fait, Brad Pitt aurait dû, on était en droit d'attendre une espèce de piratage. Parce qu'il faut pas oublier qui est Brad Pitt. Certes, c'est ce blond viril qui maintenant a 60 ans et qui donne des leçons à des jeunes noirs. Mais c'est surtout, le meilleur producteur indépendant des 20 dernières années. Faut pas oublier ça. Or, le film était coproduit par Plan B, sa société de production. Et je pensais que Brad Pitt, un peu comme dans Moneyball en 2010, un peu comme dans tous les films qu'il fait et qu'il produit, allait vraiment protéger l'intégrité créative et artistique du projet. Et qu'en fait, on est allé assister à, littéralement, ce qui pourrait presque s'apparenter à un speed racer. Vous vous souvenez des sœurs Wachowskis, qui rentraient dans une espèce de trip au LSD, alors pas sous cette forme-là, mais qu'on allait vraiment assister à quelque chose de jamais vu. Vraiment une espèce d'immersion spectaculaire. Et je ne l'ai jamais eu. Et là, je termine juste mon propos là-dessus. En fait, le film, pourquoi je ne l'ai pas eu? Parce que j'ai compris. Le film, il est tourné pour l'IMAX. L'IMAX est un dispositif très très qualitatif, avec une image beaucoup plus lumineuse, avec des sièges qui vibrent. Voilà, il y a un côté très vibratile. Et c'est filmé pour l'IMAX avec les moyens de l'IMAX. Presque on invente des caméras de la NASA, quoi. Sauf qu'il est monté pour la plateforme. Il y a toujours cette espèce de paradoxe où en fait, il faudrait qu'on laisse au monteur et au réalisateur la liberté de la durée de ses plans. Et en fait, ça n'est jamais le cas. Il y a toujours en fait un champ contre champ entre le point de vue du pilote et le casque. Et en fait, le point de vue du casque, la plupart du temps, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire le point de vue sur Brad Pitt. Et donc, Brad Pitt n'a pas réussi à protéger cette intégrité. Et je terminerai là-dessus. Je pense qu'en fait, la F1 est une métaphore de la résignation de Brad Pitt. En fait, la F1, vous savez, cette espèce de course d'élite, c'est le blockbuster dans lequel il avait refusé de revenir depuis 3. Et en fait, ça y est. Hollywood a réussi à en refaire un Brad Pitt blond des années 90, corvéable à merci. Il n'est plus l'acteur producteur indépendant qui luttait contre le système et surtout qui luttait sur un autre terrain de Tom Cruise. Lui, il cherchait pas le succès commercial, il cherchait le succès des Oscars. Et une fois qu'il l'a eu en 2020 avec le Tarantino, depuis, j'ai l'impression que sa carrière se délite.
Sandra Onana, le virilisme, on n'est pas trop revenu dessus, mais voilà, c'est un mot que vous avez employé dès le début. Ça, c'est quand même très embêtant en 2025, quand même. On peut se dire, c'est fini ces films-là, et non.
Bah, en même temps, d'un côté, c'est embêtant, et de l'autre, c'est marrant parce que, par exemple, il y a pile un an, il y a Jeff Nichols qui a fait un film de gros bikers, dont le nom m'échappe là tout de suite, avec Tom Hardy, qui était un hommage un peu mythologique à la fin de l'âge d'or des bikers, le nom va me revenir, mm-hmm. et qui était aussi gonflé de virilité, il y avait des mâchoires carrées, des sourcils froncés, des gens qui se bagarraient. Et en fait, je m'étais dit qu'il y avait quelque chose qui de la patine vintage, du jeu rétrospectif, un peu comme dans le Mans 66, mm-hmm. on regardait au passé cette virilité-là. Et donc, on avait l'impression de feuilleter un vieil album photo, on trouvait ça romantique, on trouvait ça, ça racontait la fin de quelque chose.
The Back Riders, c'est ça ?
Back Riders.
Voilà.
Là, c'est absolument premier degré. Et j'aimerais bien revenir, oui, sur Brad Pitt précisément, et précisément sur Top Gun aussi, parce que moi, je commence à en avoir soupé du thème du vieillissement mélancolique de l'acteur qui a été évidemment au top de sa forme, cette espèce d'étalon du cinéma d'action. Et j'ai l'impression que maintenant c'est devenu un filon. Et effectivement, on a eu la version Top Gun avec Tom Cruise torse nu. Là, on a la version Brad Pitt. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est une arnaque. On nous vend la vieillesse de Brad Pitt comme cet argument mélancolique. Il a la vue qui baisse. Est-ce qu'il va s'en sortir, etc. Dans sa voiture. Effectivement, comme c'est morcelé avec la grammaire de plateforme, il y a un nombre de rebondissements et de climax qui s'annulent. En fait, tous les quarts d'heure, il y a un nouvel enjeu de tension. Un nouvel accident. Le premier, on se dit « Oh non, c'est pas possible !» Le deuxième, on se dit « Ah, en fait, tout devient très inconséquent. » C'est vraiment une sorte de course à l'attention permanente. Et en fait, ça disqualifie totalement ce faux thème de la fatigue de l'acteur. C'est vrai qu'on en parlait au début de l'émission. Brad Pitt, il a atteint presque un surjeu dans le charisme que lui a peut-être magnifié Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, l'acteur vieillissant, qui est plus ce qu'il était. Là, il y a une sorte de surjeu, il a plus vraiment les yeux ouverts, il roule des mécaniques, et on peut pas nous vendre à la fois la vieillesse mélancolique de Brad Pitt et le surhomme, dieu du volant, invincible, pour qui on n'a jamais peur, en fait.
Et alors, il y a une femme dans ce film, il y a des femmes dans ce film ?
Non, très peu, bah, c'est vraiment le faire valoir, hein. Mais exactement comme dans Top Gun, Maverick. Mais pour revenir un petit peu sur ce que disait Sandra sur Brad Pitt, c'est très vrai, en fait. Il y a quelque chose, c'est qu'en fait, il est resté figé dans le bon, Sandra le disait, j'ai l'impression que Sandra le jugeait de manière un peu péjorative, mais ce que Tarantino a fait avec lui dans Once Upon a Time in Hollywood il y a 5 ans à peu près.
Non, c'était sublime.
Oui, c'était sublime. Ouais. En fait, il rendait grâce à, selon moi, hein, ce qui est la dernière star glamour d'Hollywood. Puisque le star system est terminé, en fait. Le star system a été complètement remplacé par la mainmise des technologies et des effets spéciaux sur le blockbuster. Les acteurs n'ont plus, à part Tom Cruise et Brad Pitt peut-être, n'ont plus les moyens de monter à eux tout seuls un film comme ça. Et donc, moi, j'attendais effectivement beaucoup de ça. J'attendais beaucoup de, en fait, c'est très vrai ce que dit Sandra, à la fois sur la dramaturgie qui aplatit tout. En fait, il y a une espèce de surenchère de tension qui finissent par tout aplatir. Et surtout, il y a une aporie, c'est que Brad Pitt ne devrait pas. En fait, un vrai bon film sur un loser et sur quelqu'un qui vieillit, c'est quelqu'un qui continue de ne jamais réussir. Mmh. Et bon, bah voilà, on crame un peu tout, mais je veux dire, il y a quand même une espèce d'explosion finale, comme dans Top Gun. Mais là où ça marche pour Tom Cruise, parce que Tom Cruise cultive ça depuis 20 ans. En fait, Tom Cruise, c'est son cahier des charges depuis 20 ans. Brad Pitt, pas du tout. Il faut quand même oublier que c'est quelqu'un qui a même précipité son vieillissement. C'est quelqu'un qui aimait énormément s'abîmer à une époque où, en fait, ça paraissait difficile. Parce que, voilà, génétique aidant, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très ridicule à le voir presque sculpté un vieillissement qui vieillit bien et donc être une contradiction de ce qu'il a été ces 15 dernières années où en fait il voulait vieillir, il voulait s'abîmer, il voulait arrêter d'être cette espèce de Marilyn cette blonde au masculin qu'il a été dans les années 90. Et je suis d'accord pour dire qu'en fait le vrai grand film réussi c'était Le Mans 66. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait la genèse de F1 c'est Le Mans 66. En fait c'est Michael Mann qui développe un projet à la fin des années 2000 qui doit être Le Mans 66. Michael Mann se le fait shipper et finit par le faire pour Amazon. Vous savez, ce film sur Ferrari qu'il a fait avec Adam Driver.
Ouais.
Et qui était moins bien. Le Mans 66 qui est raflé par James Mangold qui est vraiment bien. Donc je j'aiguille les auditeurs sur ce film. Et en fait, ça, c'est un petit peu la frustration à la fois de Brad Pitt qui aurait dû jouer dans Le Mans 66, de Kosinski qui a tenu le projet très très longtemps et qui finalement a été avalé par ses investisseurs puisque le film n'est qu'une grosse publicité. Sandra disait tout à l'heure pour Brad Pitt, mais d'abord pour Apple, pour la F1 et surtout pour Abu Dhabi dont... En fait, l'opulence n'est jamais remise en question, n'est jamais questionnée dans le scénario, alors que le méchant, comme le disait Sandra, était censé être un milliardaire. Et donc, il y a une espèce d'opulence de moyens qui n'aboutit à aucun spectacle vraiment probant. Et exactement comme le disait Sandra, tout s'annule.
Sandra, un dernier mot ?
Oui, on n'a pas dit que l'idée d'exploiter le retour de hype de la F1, il vient au départ d'une série Netflix quand même. Netflix a appliqué les codes de la télé-réalité à la F1 et a rallié un nouveau public, une nouvelle génération qui s'y intéresse. Donc c'est sur ça qu'essaye de surfer le film. Je pense qu'aussi quelque chose que n'a pas le film par rapport à Le Mans 66, la beauté un peu naïve d'une histoire d'amitié. En fait, là, il y a quelque chose d'extrêmement peu généreux dans le passage de relais. Et moi, ça m'a refait penser à Creed, la suite de Rocky, où Sylvester Stallone revient passer le relais à Michael B. Jordan, qui est un acteur qu'on connaît assez peu encore. Il a fait Fruitvale Station, c'est un peu voilà la génération Obama, etc. Il y a quelque chose de généreux là. C'est vraiment détourner le film vers quelque chose d'extrêmement narcissique et effectivement publicitaire.
F1 de Joseph Kosinski.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il était très attendu, taisez-vous, enfin voyons. Il était très attendu après son premier long, Tout simplement noir, sorti en 2020 et qui lui avait valu le César du meilleur espoir. Depuis, Jean-Pascal Zadi a multiplié les rôles, mais aussi les créations toutes plus barrées les unes que les autres. On citera la série En place sur Netflix qui le voyait, animateur de MJC, devenir président de la République. Cette fois, la science-fiction va beaucoup plus loin. Jean-Pascal Zadi et Pierre Blé, français d'origine ivoirienne, ex-pilote de l'armée de l'air, qui débarqua à Abidjan pour rejoindre la première mission spatiale panafricaine, une mission censée coloniser une planète en remplacement de la Terre à bout de souffle. On commence par un avis en quelques mois, Adrien Desnouettes.
Eh bien, j'en pense que depuis Tout simplement noir, qui était son premier film très réussi, moi je trouve que Zadi dégringole et qu'on vient de toucher le fond.
On touche le fond. Sandra Onana.
Ouais, je trouve aussi que c'est raté, mais presque aussi décevant que l'idée était enthousiasmante et faisait envie. Et il y a quand même une sympathie qui subsiste malgré le ratage.
Allez, on écoute la bande-annonce du grand déplacement.
Le temps est venu, non pas d'écrire notre histoire, mais de la poursuivre. Nous croyons en vous.
Quel est le but de tout ça ?
Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star 9.
C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. 1, 2, 3,
Si vous deviez écarter quelqu'un de cette équipe, ce serait qui ?
Armand, je le soupçonne d'être homosexuel.
Et ça vous dérange ?
C'est juste que, comme on voit sur une autre planète, tout ça, j'aimerais pas qu'ils croient qu'il y a moyen alors que... Moi, je suis...
C'est du suicide.
Ce qui fera le succès de la Black Star Line,
c'est la cohésion. N'est-ce pas extraordinaire de voir cette Afrique de nos yeux se prendre en main, conquérante?
Cette panne n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un bus coréen.
Oui, oui.
Le grand déplacement, Jean-Pascal Zadi, Adrien Desnouettes, grosse déception alors.
Oui, bah grosse parce qu'on tombe de haut. Enfin, faut quand même se souvenir ce qu'avait été Tout simplement noir en 2020. C'était une énorme surprise dans le contexte de la reprise, de la rouverture des salles à la sortie du Covid. Il avait presque fait 1 million. À raison, vraiment. Je suis d'autant plus amer de faire une critique négative que j'avais eu la chance de rencontrer Zadi. On avait fait un entretien, tout ça, et je trouvais que c'était quelqu'un de très intéressant, dans lequel je fondais pas mal d'espoir. Je continue de fonder évidemment des espoirs. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En 5 ans, bah, Zadi a été un peu victime de son succès, c'est-à-dire qu'on lui a fait beaucoup de propositions. Je pense qu'il a accepté beaucoup de choses. Il a fait une série qui s'appelle En place, qui était déjà sacrément moins bien que Tout simplement noir. Il a fait une espèce de ratage en règle d'émissions à sketch qui s'appelait Cocorico pour Canal. Et j'arrivais franchement un peu en moonwalk, je vous le cache pas, sur le grand déplacement. Je me dit « Ah, ça commence vraiment à sentir le roussi ». Et hélas, il en met pas une dans le panier. Enfin, j'ai pas ri une fois. Si, j'ai ri une fois, une blague de micro mal raccrochée avec une blague de branlette qui était plutôt pas mal. Mais un rire sur tout le film, c'est dire un peu voilà où on en est rendu. Parce que tout simplement, en fait, c'est l'histoire, je pense que les gens l'ont compris, mais c'est l'histoire d'une expédition panafricaine qui est censée concurrencer l'Occident et donc affirmer les ambitions de l'Afrique sur le terrain international pour faire un petit peu mousser le continent africain. Et donc c'est quoi ? C'est le film d'un Français qui se définit en tant que tel, il s'appelle Francis Blé ou Français Blé, enfin je sais pas, il a vraiment un nom très
Pierre
très français.
Pierre Blé.
Hein, on peut pas faire plus français. Et qui se retrouve avec tout un tas de ressortissants de différentes régions de l'Afrique noire, et y compris un Algérien. Et... En fait, on va avoir comme ça une espèce d'arrière-plan satirique qui va tirer plein de comètes et dont aucune ne finit par converger sur un propos cohérent. Et c'est là, en fait, qu'il y a presque un truc qui me gêne le plus, c'est que moi, je pense que là où c'était le plus réussi, tout simplement, c'était sur le plan de la satire. C'était un très, très bon film de point de vue d'un Français qui est noir dans la société française. Le point de vue d'un noir sur la société française et surtout sur l'élitisme du milieu du cinéma était extrêmement bien réussi. Et son personnage était tenu. C'est-à-dire que l'idiot que jouait Zadie, j'ai l'impression qu'il l'est devenu, en fait. Zadie est devenu cet idiot dès qu'il réalise quelque chose, j'ai l'impression qu'il est devenu le personnage qu'il était à l'époque, c'est-à-dire cette espèce d'opportunisme qui brandissait le poing pour en fait servir un petit peu sa carrière à lui. Et ce film-là ne fait que plaider en fait tout ce qu'on aurait pu lui reprocher d'opportunisme à l'époque. Et en fait, son film Tout simplement noir était très très bien justement là-dessus, c'est-à-dire qu'il exploitait le soupçon d'opportunisme. Mmh. Mais c'est très opportun quand même de vous rendre le porte-parole de cette cause et tout ça. Et il en faisait plein de blagues avec un personnage d'idiot très voltairien, hyper maîtrisé, qui était super dans un genre qu'il réinventait pas du tout, qui était le mockumentaire, vous savez, le faux documentaire, une fiction qui imagine un documentaire. Mais c'était vraiment très très bien fait. C'était d'ailleurs un des meilleurs mockumentaires français avec Platane probablement. Et là, sur le plan parodique, sur le plan satirique, tout s'en mêle les pinceaux, on est dans une hésitation constante entre le premier degré et la parodie qui confine à une naïveté, voire une légèreté que je trouve presque coupable sur le plan satirique.
Sandra Onana.
Moi, je le trouve pas du tout opportuniste. Je pense, moi, je lui prête un grand sérieux, et c'est presque un autre problème que je trouve au film, je lui prête une immense sincérité dans les idées qu'il met en avant dans ses films, dans sa série où il imaginait un président noir. C'était presque le problème, c'était que la série En Place, par exemple, commençait à basculer du côté consensuel, à chercher le juste message dans tout ça. Mmh. Tout simplement noir, effectivement, il a jamais confirmé l'essai, effectivement, génial de Tout simplement noir. Moi, j'arrivais pas à trouver de message. Je trouvais que c'était sur les faunées de l'activisme noir et que la subversion venait de montrer cette utopie de la cohésion de la communauté de destin panafricain ou noir tout simplement, et de gens en fait qui passaient leur temps à se foutre sur la gueule, l'espèce d'état de fait de la division entre eux. Et là, on retrouve ça dans le film. Ils sont censés tous s'unir vers le beau projet de ça refait penser à cette phrase de Nicolas Sarkozy que devait avoir Zadie en tête, le connaissant, l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Il y a quelque chose de la réparation par la farce et par la fiction de ce fait, en disant on va envoyer des noirs dans l'espace. Et c'est drôle, il y a aussi à l'intérieur du film, il y a un film qui aurait pu, qui advient pas totalement et qui est une des scènes qui moi m'arrache un rire, c'est le moment où on voit la NASA, où on voit des Américains sérieux dans un bureau qui disent Africans, comme ça. Et en fait, c'est drôle, eux, ils jouent très crédibles, très sérieux, un vrai space opéra digne à la Christopher Nolan, alors que tous les autres jouent comme des bouffons. Et l'espèce de frottement de registre à ce moment-là, le fait qu'il y ait les vrais ennemis, les Américains, moi j'ai trouvé ça très drôle. Bon, le reste du film, je sais pas, on a peut-être pas tant dit que ça, le film passe beaucoup plus de temps à être grave et sérieux qu'on s'y attend. Au bout d'un moment, il y a des enjeux vraiment de première gravité, se sacrifier, il y a un moment, il y a une sorte de dégagement sur l'écologie, il y a même une sorte de dilemme qui était le même qu'on trouvait dans Black Panther, qui disait est-ce qu'on choisit l'isolationnisme ou est-ce qu'on finit par permettre aux autres de bénéficier de ce dont ils méritent pas, puisqu'on a humilié l'Afrique, mais est-ce qu'on fait on partage nos découvertes technologiques, etc. Donc je pense pas Zadie opportuniste, je pense qu'au contraire il met beaucoup de sincérité et de sérieux dans ses idées. Je pense que c'est une des plus précieuses révélations de ces dernières années, qui a toujours les meilleures idées, qui hélas n'aboutissent pas en des films aussi réjouissants, drôles, subversifs que Tout simplement.
Qu'est-ce qui fonctionne pas alors ici pour vous?
Alors c'est marrant, on a parlé du thème de l'abruti. C'est vrai que il y a quelque chose que fait très bien Zadie. Effectivement, il a trouvé son clown. Zadie, il fait très bien l'idiot normalement, et son clown. Alors il est très nonchalant. Je sais pas quelle taille fait Zadie. Enfin pas loin d'un mètre 90. C'est comme ça. Il y a un grand dadais qui va toujours dire ce qu'il faut pas. Donc il va toujours. C'est comme ça que les gens se retournent contre lui. Il se prend toujours des baffes, etc. Et donc c'est le crétin des Alpes. Et là, il y a déjà un truc dans la articulation qui fonctionne pas, c'est qu'on a on a réuni la crème de la crème des scientifiques, des meilleurs de chaque pays, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, etc. Et lui-même, en fait, est censé être visiblement une sorte de militaire d'élite. Il a le sang-froid de faire des manipulations que quand on a testé ses concurrents pour la mission spatiale, personne d'autre ne sait faire. Donc il y a déjà un truc qui fonctionne pas entre l'idée de est-ce que c'est la crème de l'élite qu'on a choisi ou est-ce que c'est un idiot. Lui, en fait, il est assez effacé de ce film, j'ai trouvé. Il n'existe pas comme... il n'est pas central, en fait, d'ailleurs, très vite. Et c'est peut-être aussi un acte généreux du film. Le personnage pivot devient un personnage féminin de cosmonaute qu'on croit être la sidekick, mais qui devient l'héroïne.
Non, mais il faut vraiment revenir là-dessus, parce que c'est, selon moi, d'un point de vue purement mécanique de comédie, c'est ce qui ne fonctionne pas. C'est qu'en fait, tout simplement, Noir... Jean-Pascal Zadi, qui d'une part maîtrise très bien son personnage d'idiot, une espèce d'étourdi à la Pierre Richard, doublé d'un gros con en plus, en fait, serpenté dans différents sketchs qui étaient alimentés par d'autres acteurs. Faut pas oublier le casting de rôles secondaires qui était tout simplement noir. Il y avait Ramzi Bedia, il y avait Eric Judor, il y avait Jonathan Cohen, il y avait Omar Sy. Et en fait, toute cette espèce d'amitié, de collaboration, d'amitié faisait des superbes scènes. En fait, c'était pas de la garniture, quoi. C'était vraiment tout le film avancé. La meilleure scène, d'ailleurs, c'était avec Mathieu Kassovitz. Une scène de satire sur l'opportunisme, d'ailleurs, de Kassovitz, sur la haine et sur le traitement des banlieues, alors qu'il n'en venait pas. Et ça, c'était ce qui faisait vraiment le prix de tout simplement noir. Cette espèce de personnage idiot qui serpentait comme un espèce de lacet et qui arrivait vraiment à nouer la chaussure. Là, le problème, c'est que par générosité, je suis d'accord, il va mettre en avant un autre casting intégralement noir.
Fadili Camara, j'ai retrouvé le nom de l'actrice, pardon.
Voilà, sauf que je suis obligé de le dire, c'est pas que la faute des interprètes, c'est d'abord la faute du réalisateur, c'est lui qui les met en scène, c'est lui qui les dirige. Le casting est très... Enfin, en tout cas, le résultat est très faible. Et on n'a pas du tout ce jeu de ping-pong, ce jeu de cette fausse comédie de faux dupes avec l'idiot qui balance des grossièretés beaucoup plus grosses que lui et tout le monde qui le regarde avec des yeux en accent circonflexe. Même pour regarder quelqu'un comme un idiot, mieux voir avoir Ramzi, Eric et Jonathan Cohen que voilà des jeunes acteurs peut-être prometteurs mais qui pour l'instant n'ont pas confirmé.
Et on va parler deux secondes, il nous reste un petit peu de temps pour les effets spéciaux quand même. Est-ce que c'est un film d'espace ou pas?
Non, c'est un film d'enfermement, c'est un huis clos comique. Et quand même, j'ai envie d'insister sur... en fait, il y avait quelque chose qui était quand même assez roublard. Moi, je maintiens sur l'opportunisme. En fait, dans Tout simplement Noir et ce film, il y a deux tentations. Il y a la tentation d'avoir un propos à la fois sur la société française et sur le panafricanisme, qui serait un peu quelque chose de... Quand même, il flirte un peu avec ça, hein. Il flirte un peu avec l'idée qu'il y a un séparatisme possible. C'est-à-dire qu'on peut assumer un peu la posture Malcolm X. C'est possible, ce serait possible. Et en même temps, il y a un point de vue républicain très français qu'il essaie de tenir. Et en fait, il y a une fuite en avant là-dedans sans jamais qu'il finissait sur un statu quo dans Tout simplement Noir. Mais là, ce statu quo prend vraiment un quart d'heure et c'est très très long.
Tout simplement noir. Non, Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi, Sandra Onana, Adrien Desnouettes. Merci beaucoup d'être venu dans les midis. Maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée.